Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Échos de l'innovation. Vous êtes bien sur Graphite 94.9. Et avant de commencer, nous allons nous présenter. Alors, je suis Nicolas Marquez, en GB1, votre présentateur aujourd'hui, avec...
Eugénie Debette. Donc aujourd'hui, on va accueillir nos invités qui vont se présenter un à un.
Alors, moi, je suis Nathan Mottier, président de CET et élève en H3.
Bonjour, alors moi c'est Raphaël Berry, en troisième année de l'UTC.
Bonjour, moi c'est Vincent Lemerle, pardon, en deuxième année de l'UTC.
Bonjour, moi c'est Jules Roch, en première année à l'UTC.
Bonjour, moi c'est Agathe Bedou, donc je suis en troisième année à l'UTC en génie biologique.
Alors, comme d'habitude, avant de commencer, on va introduire le thème du jour avec une petite actualité scientifique. Le 25 novembre dernier... L'OMM, l'Agence météorologique mondiale, a publié un communiqué de presse. Ce communiqué contient les derniers chiffres concernant le réchauffement climatique et les gaz à effet de serre. Ainsi, la concentration en CO2 atmosphérique, qui contribue à 80% à l'effet de serre, a connu entre les années 2017 et 2018 une augmentation très proche de celle observée entre 2016 et 2017, et légèrement supérieure à la moyenne des 10 dernières années. Les concentrations en méthane et en dioxyde d'azote, deux autres gaz à effet de serre, ont également augmenté. D'après le secrétaire général de l'OMM, M. Petteri Talas, il n'y a aucun signe de ralentissement et encore moins de diminution de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, malgré tous les engagements pris au titre de l'accord de Paris sur le climat. Et il ajoute, il convient de rappeler que la dernière fois que la Terre a connu une teneur en CO2 comparable, c'était il y a 3 à 5 millions d'années, et la température était de 2 à 3 degrés Celsius plus élevée qu'aujourd'hui. Le niveau de la mer était de 10 à 20 mètres supérieur au niveau actuel. Ainsi, d'après le communiqué de presse, nous devons traduire nos engagements en actes et revoir à la hausse nos ambitions dans l'intérêt de l'humanité.
Tout de suite, on va se lancer dans notre débat. Le premier thème que nous allons aborder sera le suivant. En effet, on entend beaucoup parler des prédictions et de chiffres contradictoires autour du thème du dérèglement climatique. Et même les scientifiques qui nient le rôle de l'homme dans le réchauffement de la planète. Donc alors, la question suivante, qui croire et pourquoi ? On va d'abord parler du GIEC. Donc qu'est-ce que le GIEC et quelle est sa fonction ?
Le GIEC, ça va être un groupe de scientifiques. Donc on va y avoir des climatologues, des physiciens, des biologistes qui vont étudier le climat et ses conséquences sur l'homme et l'environnement en général. En fait, c'est un groupe de personnes de plusieurs parties du monde qui vont en fait synthétiser tous les documents, tous les papiers qui sont écrits sur le réchauffement climatique et qui vont tous les 2-3 ans publier des rapports annonçant quelles sont les prévisions concernant la montée des températures, concernant les conséquences sur la biodiversité, sur l'agriculture et sur l'humanité.
Alors je vais juste vous poser une petite question, si vous voulez bien vous prêter au jeu du chiffre. On va vous laisser réfléchir à cette question. Quel est le pourcentage, selon vous, de certitude du GIEC que l'homme est le premier responsable du réchauffement climatique ? Je vous laisse...
Moi j'ai la réponse, du coup je vais pas le dire.
Ok, alors les autres ?
De même.
Moi aussi.
Ah, Jules ?
Strike. Je sais pas, moi aussi j'ai...
Propose un chiffre.
Ok, 92.
Ok. Et
Du coup, il reste que moi, non ?
Ouais.
Moi, je sais absolument pas non plus. Je sais pas, je veux dire, allez, 95%.
c'est ça, c'est 95%. Bien joué, d'abord.
Bien joué.
Bravo, Annie.
Ok. Maintenant, on va aborder une autre partie qui sera le climato-sceptisme. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un climato-sceptique ?
Alors, les climato-sceptiques sont des personnes souvent issues de la sphère intellectuelle. Elles sont des personnes conservatrices qui remettent en question la cause anthropique dans le réchauffement climatique.
Anthropique, ça veut dire qui vient de l'homme.
Merci, Vincent. Selon eux, les fondements scientifiques qui établissent la responsabilité humaine sur l'impact environnemental sont trop fragiles pour être absolus. Ils appuient leur théorie sur le fait qu'il n'y a, à ce jour, aucun consensus réel de la part des scientifiques.
Est-ce qu'on peut dire que ça, c'est toujours vrai ? Parce qu'aujourd'hui, on a quand même le GIEC qui a énormément de revues scientifiques qui travaillent là-dessus. Ils ont également été jugés pour falsification des preuves. Et au final, ils ont été reconnus pour leur honnêteté. Donc, est-ce qu'on peut dire vraiment que... ce qu'ils disent est doutable.
Donc déjà, pour répondre à ça, la réponse est bien évidemment non. Il n'y a pas de doute entre les scientifiques. Il y a un consensus très fort de près de 97% concernant le réchauffement climatique. On est sûr qu'il y a un réchauffement climatique aujourd'hui et on fait de très bonnes mesures pour savoir quel est son impact et quel sera son impact d'ici 2050, 2100, voire d'ici l'an 3000.
Quel est l'intérêt des climato-sceptiques si on sait qu'ils ont tort? Quel est leur intérêt de donner ces raisons-là?
L'intérêt, il y a la place des lobbies en tout ça, surtout, qui vont diffuser un message pour éviter un changement de modèle de société, on va dire ça comme ça. Par exemple, en Australie, le Parti libéral arrive au pouvoir en 2013. Tony Abbott devient alors Premier ministre. Alors, il est climato-sceptique convaincu. Il supprime dès l'année suivante la taxe carbone mise en place par le gouvernement précédent et en finançant à hauteur de 1,2 million de dollars la campagne du Parti libéral, les géants australiens des mines, du charbon et du pétrole ont misé sur le bon cheval. Et au final, les climato-sceptiques ne rejettent pas le changement climatique. Ils refusent surtout les conséquences de ce constat, changer ce modèle de société.
Donc, en plus des lobbies, il y a bien sûr les politiques qui sont de mise. Vous prenez Donald Trump, qui est le président aujourd'hui des États-Unis, donc le pays le plus grand pays en termes d'économie du monde. Excusez-moi, cette phrase ne voulait rien dire, je recommence. Donc Donald Trump, qui est aujourd'hui le président des États-Unis, donc un des pays les plus influents du monde, Donald Trump est un climato-sceptique notable. Donc, ouais.
Je voulais juste préciser vite fait que, donc, comme Vincent vient de le suggérer, en fait, le climato-scepticisme prend surtout ses racines aux USA et en Chine, ce qui est problématique puisque ce sont deux des plus grands producteurs de CO2 de la planète et de gaz à effet de serre en général.
Mais est-ce que quelque part, ce n'est pas logique étant donné que la Chine et les USA sont parmi les pays qui ont le moins d'intérêt économique à agir dans le sens de l'écologie ?
Ouais, c'est justement ce que j'allais dire. Je pense que c'est un bon moyen de se déresponsabiliser, de trouver finalement que non, ils sont pas responsables de cette part et du coup de vivre une vie plus tranquille parce que voilà quoi, ils se dédouanent de quelque chose et ils se disent que non, voilà, c'est pas de leur faute.
Mais si on revient sur le cas des États-Unis, Donald Trump ne représente pas tout le monde. Vous prenez aujourd'hui des États comme la Californie, les personnes qui sont inquiets du réchauffement climatique sont très nombreuses. La Californie, c'est un pays qui s'assèche et qui risque de s'assécher encore plus et qui va s'assécher même encore plus dans les prochaines années. Donc là-bas, les gens sont de moins en moins climato-sceptiques et de moins en moins d'accord avec Donald Trump. La question qu'on peut se poser, c'est quels sont leurs arguments concernant du coup le réchauffement climatique? Pourquoi ils disent qu'il n'y a pas de réchauffement climatique?
En gros, en réalité, on a remarqué que plus les experts parlent, plus les gens trouvent ça suspect. Et il y a aussi une série d'études, The Knowledge Illusion, faite par Steven Sloman et Philippe Fernbach en 2017, qui montrent que moins les gens en savent, plus ils sont convaincus d'avoir raison. Et les arguments des climato-sceptiques sont multiples. Il y en a trois, on pourrait résumer ça en trois catégories. Donc ces 15 dernières années, les températures moyennes du globe ont stagné, c'est leur argument. Sauf que l'échelle est trop courte pour pouvoir observer une différence. Et on a constaté que depuis 1980, chaque décennie est plus chaude que toutes les précédentes. Et ce qui pourrait être expliqué par qu'un ralentissement sur 15 ans ne modifie pas cette tendance. Il faut aller à une échelle beaucoup plus grande, l'échelle du climat. Donc il y a cet argument-là. Ils ont aussi l'argument qu'au Moyen-Âge, il faisait plus chaud. C'est juste qu'il ne faisait pas plus chaud que dans il faisait plus chaud dans l'hémisphère nord, mais pas sur l'ensemble du globe terrestre. Donc c'est juste qu'ils prennent des petits éléments dont ils ont trouvé la vérité, on va dire ça comme ça, et ils l'étendent au cas général.
Donc, il y a aussi ce problème de mensonge et de d'incompréhension entre le climat et la météo. Un argument de Donald Trump très fort, c'est de dire, par exemple cet hiver, il a dit « Ah, regardez, à Chicago, on a des hivers, il fait super froid, et vous venez me parler de réchauffement climatique, vous êtes complètement fou. » Sauf que voilà, le climat, comme l'a dit Raphaël, il s'étudie sur des dizaines, voire des centaines d'années. La météo, c'est quelque chose de très ponctuel. C'est à un moment donné, à un endroit donné du globe. Le climat, bah voilà, c'est l'étude de la température sur des décennies au niveau de la planète. Donc c'est deux choses tout à fait différentes.
Du coup, est-ce que c'est pas pour ça qu'il y a des scientifiques qui ont plutôt tendance à parler de dérèglement climatique ? Et quel est le terme le plus pertinent pour parler des changements actuels ?
En fait, les deux termes sont employés puisque à la base, c'est un réchauffement climatique puisqu'à l'échelle globale, on a un réchauffement de la planète. Mais ce réchauffement va entraîner aussi des refroidissements à certains endroits. C'est-à-dire que dans l'hémisphère nord, on va avoir la fonte des glaces qui va entraîner une vague de froid. Et ces vagues de froid vont être répercutées sur des pays comme les États-Unis ou le Canada. Ils vont avoir des tempêtes de neige, des températures glaciales. Et donc, c'est pour ça qu'on a introduit le thème de dérèglement climatique. Mais il faut quand même garder à l'esprit que c'est un réchauffement qui a lieu sur la planète. Et donc, c'est là que... on parle de réchauffement climatique. Après, pour toucher plus de personnes, on va dire dérèglement climatique pour leur dire que ce n'est pas seulement un réchauffement à des endroits ponctuels de la planète, ça va être un refroidissement.
Et voilà, donc même la différence entre ces deux termes va être utilisée par les climato-sceptiques pour dire bah, regardez, ils ne sont même pas d'accord entre eux, les scientifiques. Il y en a, ils parlent de réchauffement, il y en a, ils parlent de dérèglement. Et ça, on peut généraliser ça à tout le problème. C'est qu'il y a des nombreux climato-sceptiques qui disent les scientifiques ne sont même pas d'accord entre eux. Ils vont se disputer sur des chiffres, sur des données, pourquoi les croire ? Sauf que là, bah pareil, la bonne réponse, c'est dire c'est normal que les scientifiques ne soient pas d'accord entre eux, qu'il y ait encore des discussions sur des études menées, sur des mesures prises. Mais quand on regarde toujours ce consensus scientifique, il est aujourd'hui irréfutable. Il y a 97% des scientifiques qui ont prouvé, pas qui ont prouvé, mais qui aujourd'hui sont d'accord sur le fait qu'il y a un réchauffement climatique.
Ouais, de toute façon, parler de consensus de manière générale, c'est un petit peu, un peu idiot, parce que dans n'importe quel domaine, il y a un consensus parfait sur une notion en particulier. Quand on regarde en philo, parler de consensus, c'est absurde, parce que voilà, les gens se battent entre eux pour leurs idées, et même pour le domaine, encore une fois, scientifique, l'univers des publications, il y a toujours des tests techniques les unes contre les autres. Alors, voilà, généralement, il y a une convergence, un consensus. Mais bah, enfin, c'est habituel qu'il y ait des débats. Et ça n'a rien de propre aux recherches faites sur le réchauffement climatique.
Et en plus de ça, il y a aussi l'argument d'autorité, à savoir que certains scientifiques sont assez reconnus, sont souvent cités par ces individus, comme Richard Lidzen ou encore les deux prix Nobel, Ivar Giavère et Karim Ulis, qui sont climato-sceptiques. Et en France, parmi les grands chercheurs, on trouve notamment Jean-Claude Pont.
Donc ces gens-là, c'est un argument d'autorité. Ce sont des scientifiques, souvent des prix Nobel en physique. Du coup, ils sont un peu obligés d'avoir raison. Sauf que là, c'est quelque chose de faux. C'est pas parce qu'il y a deux, trois scientifiques isolés qui vont contredire ce réchauffement climatique qu'il n'existe pas. Ça, il faut faire attention à ça, cet argument d'autorité dont on a parlé dans une émission précédente. Je ne sais pas si Jules, tu peux le décrire.
Pardon ?
C'est l'argument d'autorité dont on a parlé sur l'émission sur les complots.
Oui, absolument. Et bien, c'est tout simplement justement, je vais pouvoir rebondir là-dessus. C'est là, tout simplement des gens qui profitent de leur influence dans certains domaines pour justifier une certaine expertise dans un domaine où ils n'ont pas de compétences en réalité. Donc ça se trouve très souvent sur des gens qui agitent leur diplôme ou leur prix Nobel ou je ne sais quoi pour parler de choses qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Et là où ça me permet de rebondir pour la suite, c'est parce que justement ça introduit la question de la partie suivante, qui est celle des lobbies. Alors les lobbies, je le rappelle, c'est une organisation regroupant des intérêts communs à des institutions ou entreprises et qui défend ses valeurs et intérêts auprès des décideurs politiques. Et il semble évident que dans le domaine du climat, comme dans beaucoup d'autres domaines, il y a une présence des lobbies. Alors je ne sais pas si vous pouvez nous en dire plus.
Tout à fait. Il y a Willie Soon, par exemple, qui est astrophysicien américain, qui a attribué le changement climatique au rayonnement solaire. Pour mener ses recherches, il a reçu 1,2 million de dollars de la Southern Company, donc qui est un géant américain au niveau de l'énergie, et aussi de ExxonMobil, l'un des plus grands groupes pétroliers au monde. En plus de ça, entre 2005 et 2008, ExxonMobil a d'ailleurs dépensé plus de 9 millions de dollars pour financer plusieurs think tanks. Donc ce sont des lieux de réflexion de nouvelles idées et approches politiques. Et ils ont financé plusieurs think tanks tout en niant le changement climatique. Il y a aussi Koch Industries, un géant du pétrole, de la chimie et des matières premières, qui a quant à lui généreusement légué plus de 25 millions de dollars pour essayer de prouver qu'il n'y a pas de changement climatique.
Voilà, et donc ces entreprises ont un intérêt à faire dire aux scientifiques, qui ont donc un argument d'autorité dont on a parlé juste avant, que ce réchauffement climatique n'est pas réel ou alors qu'il est différent de celui que les vrais scientifiques, entre guillemets, avancent. Et donc c'est pour ça qu'elles financent de telles recherches.
Après, c'est quand même des recherches qui ne sont pas sues. C'est-à-dire que les entreprises ne vont pas dire on a dépensé tant d'argent pour tel lobby, sachant que tout le monde sait à peu près quel lobby va financer quelle activité. Par exemple, pour Exxon, ils ont financé plusieurs lobbies, plusieurs think tanks, comme tu dis. Et pourtant, ils ont promis d'arrêter de contribuer au groupe dont la position sur le changement climatique pourrait détourner l'attention de l'importance de la discussion sur la sécurité énergétique. C'est-à-dire que ils ont promis qu'ils allaient arrêter en fait, de financer des groupes qui étaient en gros climato-sceptiques, mais d'un autre côté, ils le font parce que c'est dans leur intérêt, même si ça va à l'encontre de ce que pensent certains de leurs clients. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu du greenwashing, comme fait. Il y a beaucoup d'entreprises qui le font. En France, il y a des entreprises du bâtiment, je ne vais pas en citer, des entreprises pétrolières qui le font également. Il y a aussi Google qui se dit oui, on essaie de faire attention au stockage des données, on consomme le moins d'énergie possible, alors que ce qu'ils consomment est extraordinaire en termes d'énergie, et qui ont donc versé de l'argent indirectement à Donald Trump pendant sa campagne pour qu'il soit élu. C'est-à-dire que ils ont annoncé avoir regretté, par exemple, que Donald Trump avait décidé de quitter l'accord de Paris. Et d'un autre côté, ils ont fait financer des lobbies qui donc ont poussé Trump à quitter cet accord. Donc on a énormément de schizophrénie parmi ces entreprises.
Après, un truc qui n'est pas évident, c'est que dans ces groupes qui sont monstrueux, il n'y a pas une personne qui est à la tête de Google. C'est-à-dire que c'est des décisions qui sont prises par plusieurs personnes. Et donc, encore une fois, l'idée du consensus, c'est très difficile de l'avoir. Il y a peut-être un PDG, mais en fait, on se rend compte vite que c'est les décisions prises au sein de des groupes monstrueux comme ça, elles ne sont pas prises par une seule personne. Et donc, il y a peut-être un groupe qui était plus enclin à, ou qui s'est dit, bah voilà, il y a des intérêts à financer ça. Et de l'autre côté, d'autres se sont dit, bah voilà, on est contre la sortie des accords de Paris. Et donc, fédérer, je ne sais pas combien ils sont d'employés chez Google, mais peut-être des dizaines ou peut-être des centaines de milliers de personnes, c'est ultra compliqué, quoi.
Mais oui, mais du coup, là, on parlait de Google, on parlait des entreprises du bâtiment, des entreprises pétrolières. Après, une chose qu'il ne faut oublier, c'est que en bas de la chaîne, là-dedans, il y a nous. Donc, c'est nous qui consommons les données de Google, le pétrole, les choses comme ça. Et du coup, ça pose la question, est-ce qu'à votre avis, l'écologie, c'est compatible avec le capitalisme et avec la société de consommation?
Donc ça, voilà, c'est un débat et un sujet très sensible, puisque derrière ces problèmes liés au réchauffement climatique, il y a ces émissions de gaz à effet de serre. Ces émissions de gaz à effet de serre qui sont dues à l'activité humaine. Et donc qui vont être dus chaque fois qu'on va prendre la voiture, on va rejeter du CO2. Quand on va utiliser de l'électricité dans le monde, on va rejeter du CO2. Donc à chaque fois qu'on va utiliser en réalité une machine, ça va être une source de pollution. Sauf que tout ça, c'est dû à notre mode de consommation. C'est que vous prenez dans les grands pays occidentaux, on consomme énormément de produits et tout ça va être à l'origine de la production. Et donc ça rentre en contradiction avec le message... c'est corrélé du coup avec tous ces lobbies des entreprises qui, eux, ne veulent continuer à gagner de l'argent, à croître et à nous vendre des produits. Donc voilà, donc tout ça, c'est... Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais sur cette question de changement climatique, c'est clairement un modèle de consommation qu'il y a à revoir.
Et dans ces cas-là, est-ce que tu aurais un modèle à proposer? Parce que je suis d'accord avec toi que le capitalisme n'est pas voué à fonctionner dans le cas du réchauffement climatique, mais est-ce que tu aurais un système qui fonctionnerait à proposer? Je sais pas.
Ça, c'est un peu la réponse. La question piège, il y a évidemment plusieurs solutions, plusieurs idées qui pourraient être mises en place, sauf que c'est souvent des choses, à des points très précis. Prenez par exemple pour le bâtiment en France aujourd'hui, si vous voulez réduire énormément vos émissions de gaz à effet de serre, vous isolez la plupart de vos bâtiments. Aujourd'hui, il y a 20% des émissions de gaz à effet de serre en France qui sont dues aux bâtiments. Donc une des solutions, ça serait, parce que vous, on va chauffer au gaz ou au fioul. Donc une des solutions, ça serait notamment en campagne, ça serait d'aller isoler toutes ces vieilles maisons pour réduire notre dépense énergétique. Mais donc voilà, il n'y a pas de solution miracle à ce problème-là. Ça va être des solutions locales sur des choses très très précises.
Mais par exemple, est-ce qu'il n'y a pas un risque si on continue juste, comme c'est beaucoup le cas en ce moment, à se plaindre auprès des entreprises de ne pas être suffisamment écologique, de ne pas respecter l'écologie? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir justement, ce dont on parlait, ce greenwashing, et de ne pas avoir de véritable action? Est-ce que ce n'est pas à nous d'essayer d'arrêter de consommer tout simplement?
Moi, selon moi, il y a un double problème, comme tu viens de le souligner. C'est qu'on ne peut pas tout remettre sur le dos des entreprises. Aujourd'hui, c'est nous, les consommateurs, qui allons acheter beaucoup trop de produits, qui allons beaucoup trop voyager, etc. Et c'est nous qui allons être à l'origine de la production. Les entreprises, elles proposent juste des objets, je sais pas, des services pour répondre à nos besoins. Elles s'adaptent à nos besoins. Donc voilà, c'est une double remise en cause de la part des entreprises et aussi de la part des citoyens qui consomment.
Ouais, dans tous les cas, c'est un petit peu ce que je suis en train de voir, moi, en ce moment, ce qui est histoire des techniques et même philosophie. C'est cette difficulté à vaincre l'inertie, on va dire, de la société. C'est-à-dire que dans nos comportements, dans nos habitudes, il y a une inertie qui a été lancée dans notre éducation, dans notre culture. Et pareil pour les modèles des entreprises. C'est-à-dire qu'à la fois individuellement, on doit vaincre nos habitudes, nos comportements, et se pousser dans des situations parfois d'inconfort, parce que ce n'est pas ce qui nous plaît, ce n'est pas ce dont on a l'habitude. Mais sur le second plan, on va dire d'un autre côté, les entreprises, elles aussi, doivent changer leurs habitudes, leurs comportements. Et ça se fait souvent par peut-être des gains économiques moins importants ou même des restrictions budgétaires dans certains domaines. Et donc il y a cette double facette de l'individu, à la fois genre humain dans sa vie et salarié ou employé dans son métier. Et c'est à lui de faire la part des choses et de se dire jusqu'où il s'implique et à quel moment il participe à l'arrêt ou à la diminution de l'inertie qui finalement ne va pas forcément dans la bonne direction actuellement.
Alors moi je crois savoir que tu es président d'une association à l'UTC qui traite un peu de ces questions-là. Alors tu vas nous en dire un peu plus, mais avant cela, une petite pause musicale.
J'ai cherché l'erreur au cœur des systèmes. Ce qui brille est un leurre, ce qui brille peut fondre au soleil. J'ai cherché l'erreur qui trouble mon sommeil. J'ai cherché pendant des heures pour voir que tout est à refaire. Enfin,
Bonjour, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous êtes toujours sur Graphite 94.9 et aujourd'hui nous débattons autour de la question « Comment peut-on communiquer globalement sur les risques du dérèglement climatique et les moyens d'agir ?» Alors, je vous rappelle que nous accueillons aujourd'hui Nathan Mottier, qui est président de l'association Compiègne en transition. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Déjà, je pense que c'est bien que tu précises que CET, c'est Compiègne en transition, parce qu'on en a parlé plusieurs fois, mais sans jamais préciser que c'est Compiègne en transition. Donc, je suis président de Compiègne en transition depuis ce semestre-là. J'ai fondé la Team Ruche à CET. Du coup, j'étais pendant un an le responsable de la Team Ruche. Et donc voilà, ce semestre...
Qu'est-ce que vous avez fait avec cette Team Ruche?
Alors, premier semestre, ça a été de déblayer un petit peu, trouver les contacts. Et donc, j'étais seul avec deux, trois autres personnes. Bah, du coup, je n'étais pas seul, mais enfin, on n'était pas nombreux, quoi. Et il n'y a pas eu de choses concrètes qui ont été menées. Surtout, voilà, savoir comment ça pouvait se faire et déjà surmonter les premiers obstacles qui étaient, par exemple, qu'on ne pouvait pas avoir de ruche à Benjamin Franklin ou au centre Pierre Guillaume. Et le second semestre, ça s'est mis en place avec des formations, avec de l'achat d'équipement, et des gros coups des processus de communication pour faire parler de la Team Ruche. Et surtout la fédération d'un groupe et pour qu'elle continue. Et d'ailleurs, en ce moment, ce semestre-là, la Team Ruche fonctionne du tonnerre avec Lison Respect du Tonnerre et je pense aussi à Garance. Donc voilà, et une team voilà, au top, super dynamique, donc ça fait plaisir. Et c'est sans oublier toutes les autres teams de l'association, bien sûr, qui sont elles aussi très bien.
Ok, alors maintenant je vais passer à une autre question. Que penses-tu de la communication que faites aujourd'hui autour du réchauffement climatique?
Je ne sais pas à quelle échelle je peux parler de ça, c'est-à-dire que...
À la tienne déjà.
Alors, au sein de Compiègne en transition par exemple?
Oui.
Ok, alors c'est pas évident. Parce qu'il y a plusieurs difficultés. C'est-à-dire que, déjà, dans le public de Compiègne en transition, on a à la fois cette chance et cette malchance d'avoir un public qui est relativement concerné. C'est-à-dire que les personnes qu'on veut toucher, c'est généralement les personnes qui ne sont pas dans Compiègne en transition. Et donc, on doit mobiliser les personnes qui sont dans Compiègne en transition pour atteindre les personnes qui ne le sont pas et rendre nos propos attirants. Et donc, ça, ce n'est pas évident. Parce que l'une des grandes difficultés... Ah pardon, je parle pas...
Il faut que tu parles mieux dans le micro.
J'étais trop loin du micro. L'une des grandes difficultés, c'est pas de tomber dans cette, on va dire, stigmatisation de, voilà, nous on est des écolos, on a des lianes sur le torse, je sais pas, on mange des bananes à longueur de journée et on se chauffe au feu de bois. Non, c'est pas comme ça. Comme je suis dans une école d'ingénieur, j'ai un téléphone, j'ai un ordi, j'ai une vie. Bon, il y a un truc assez.
Un micro vient de tomber.
Voilà, technique. Il y a un truc assez incongru qui vient de se passer. Mais voilà, j'ai une vie quand même relativement normale, proche de pas mal de personnes. Et donc, l'un des enjeux, c'est de montrer que c'est attractif. Montrer que ma vie, elle n'est pas radicalement différente de la leur, de montrer qu'il n'y a pas tant de choses à faire pour s'inscrire dans la démarche de la transition. Et donc, généralement, la communication, c'est ça. C'est pas être agressif, pas culpabiliser son public, mais à la fois lui faire comprendre l'utilité de s'inscrire dans ces démarches-là. Et donc ça, c'est vraiment une histoire de juste milieu, genre pas être trop agressif, mais en attendant, montrer qu'il y a un peu urgence, qu'il y a des trucs à faire, quoi. Ça, c'est un éternel dilemme et... Voilà, c'est ça.
Ok, donc quand as-tu pensé à t'engager dans la lutte contre le réchauffement climatique?
Je dirais que c'était... J'en ai pas mal entendu parler au lycée, mais compte tenu du contexte, on va dire, j'ai pas forcément l'occasion de m'y pencher trop, c'est-à-dire que j'avais un peu... j'avais ma routine, quoi, j'avais le lycée, le sport, la musique, et puis voilà, quoi, je penchais pas trop sur l'actu. Bon, il y avait deux, trois fois des débats, mais finalement, j'ai pas aussi le cadre propice pour m'engager. Mais là, en arrivant à l'UTC, avec toutes les assos et on va dire le temps libre qui nous est accordé, si on s'organise bien, pardon, c'est là où je me suis dit, là, je peux faire quelque chose, quoi. Et donc, dès le premier semestre, à mon arrivée, je me suis dit, Team Ruche.
D'ailleurs, moi, j'ai une question. Tu dis que le but de l'association, c'est quand même d'atteindre les gens qui sont en dehors de l'association. La plupart des gens qui nous écoutent sont proches de l'agglomération de Compiègne. Alors, est-ce que tu as des conseils pour qu'ils s'investissent, pour qu'ils participent? Est-ce que vous organisez des événements, des choses comme ça?
Alors là, il y a énormément de choses à dire à ce sujet-là. C'est-à-dire que là, durant ce semestre-là, on est en train de finaliser le processus de sortie de CET de l'UTC. C'est-à-dire que durant 2 ans ou plus, il me semble, CET Compiègne en transition était une association avec un contrat avec le BDE. Et là, on est en train de rompre ce contrat pour que Compiègne en transition devienne une association de ville, du coup, dans laquelle tous les Compiénois pourraient être et participer. Donc CET, ça a vraiment un rôle de fédérer les actions, fédérer le territoire compiénois pour centraliser les démarches et les rendre beaucoup plus efficaces. Donc à l'occasion, on va créer un pôle, lorsque la sortie sera finalisée, un pôle qui s'appellera CET-UTC pour maintenir les activités à l'UTC. Et donc, quelques actions qui sont réalisées à CET, ça peut être par exemple, un truc assez ludique, c'est la René Cotim. Bon, il n'a pas eu tant que ça ce semestre, mais globalement, ça se fait bien. C'est-à-dire que c'est des courses où l'on se munit de sacs poubelles avec un itinéraire qui est préparé. On va dire un itinéraire où on sait qu'il y aura des déchets. Et donc, pendant qu'on court, on ramasse des déchets. Donc, ça peut être un truc assez sympa. On fait du sport et en même temps, on a un petit geste écolo. Et sinon, il y a des trucs beaucoup plus, profonds. Je sais pas comment on peut dire ça, mais beaucoup plus concrets. Je pense, par exemple, à la Team Ruche. Enfin, ça, encore une fois, c'est...
en fait, la meilleure des teams.
Voilà. Non, mais je suis assez attaché à Team Ruche, mais encore une fois, j'adore les autres teams. Mais voilà, à chaque fois, il y a une démarche, c'est-à-dire que la Team Ruche, on valorise le rôle des abeilles, on montre que c'est important pour l'écosystème. Et encore une fois, on essaye toujours, ça c'est un des grands enjeux, d'apporter ce côté ludique, quoi. Que ce soit pas forcément un exercice de contrainte, on se sacrifie ou on douille. Voilà, les gens qui sont à Team Ruche, ils pensent à l'environnement, mais en même temps, ils s'éclatent. Et... J'espère. Mais et pour la René Co-Team, bah, voilà, ils font leur sport. Enfin, il y a plein d'autres trucs, mais voilà.
Agathe, tu voulais réagir?
Tu as dit au début, quand tu as demandé à quel moment tu as commencé à être sensibilisé par le réchauffement climatique et la question écologique, tu as dit en arrivant à l'UTC. Ce qui veut dire qu'avant, tu n'étais pas vraiment sensible à ça. Et je peux le dire, moi, c'était aussi mon cas. Et je sais pas, est-ce que tu as une idée de ce qu'on pourrait faire pour sensibiliser les collégiens, les lycéens, également les primaires, par exemple? Est-ce que ton association, elle fait quelque chose pour ça ou...
Il y a plein de trucs à dire. Alors, juste... moi, je pense que ce qui m'empêchait de m'investir, c'était la liberté que j'avais. Parce que je pense que j'étais relativement sensible, j'avais un cadre propice à ça. Et du coup, quand je suis arrivé à l'UTC, c'était bingo, c'est-à-dire j'y suis allé. Mais du coup, à l'UTC, il y a tout un pôle de sensibilisation qui est organisé. Alors, il y a des ateliers de sensibilisation à l'école, dont la responsable est Sarah. Et il y a aussi sensibilisation lycée, avec du coup, le responsable qui est juste là,
parmi nous,
Vincent Lemaire, qui a réalisé plein de trucs incroyables. Et je peux lui laisser la parole pour qu'il explique ce qu'il a fait. Quoi.
Bah, moi, je suis parti du principe que je pense que du coup, les lycéens, on ne permet pas aux lycéens aujourd'hui d'apprendre et de connaître les problématiques liées au réchauffement climatique. Du coup, au semestre dernier, j'ai commencé à rédiger un rapport solo sur notre mode de consommation et les impacts que ça a sur l'environnement. Et je me suis dit, ce serait bien d'aller le présenter à des lycéens. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté un lycée de Compiègne qui s'appelle Pierre Dailly pour leur demander s'ils étaient intéressés par des interventions sur le réchauffement climatique et notre mode de consommation. La proviseure, Madame Cécile Dio, a été extrêmement enthousiaste et elle m'a dit, fais-moi un planning et j'impose au prof ta présence dans toutes les classes. Ce qui a été super parce qu'on a réalisé avec toutes les classes de terminale 2 heures de présentation. Donc au total, ça fait 28 heures de présentation. Et ça a été vraiment super à faire. Et là où c'est un peu plus inquiétant, c'est qu'on s'est rendu compte que les lycéens n'avaient pas, voire presque pas, de connaissances sur ce sujet-là. Ce qui est même, j'arrivais, je leur demandais, vous savez ce que c'est le réchauffement climatique? Il n'y en a que très peu qui étaient capables de répondre à cette question. Ce qui, moi, m'a personnellement un peu inquiété.
Moi, personnellement, au lycée, je ne pense pas que j'aurais été vraiment capable de répondre à cette question. Après, je ne sais pas ce qu'il en est des autres, mais ce n'est pas si évident que ça, disons.
Du coup, moi, je pense que ce qui est super, c'est ce qui est organisé par la principale et de te faire venir, parce que les lycéens, finalement, ils n'ont aucun cours dans lesquels on leur apprend sauve ta planète. Et encore moins au collège. Et... Bon, maintenant, ça change certainement. Mais donc, entre guillemets, pourquoi les blâmer de quelque chose qu'ils ne pourraient pas savoir? À la limite, ils se renseignent sur les réseaux sociaux, sur les journaux, c'est des discussions avec leur famille, avec leurs amis. Et donc là, c'est vachement contraint par le contexte social, le contexte culturel, quoi.
Oui, je les blâme absolument pas, bien sûr. Hein. Juste, moi, c'était un constat qu'on a fait, quoi.
Ouais, surtout, ça paraissait évident pour toi et ça l'était pas pour...
Non, moi, je te blâme pas c'est non plus, en fait, le fait, bah, justement, on pourra en reparler après, mais c'est que la communication sur le changement climatique et même dans l'éducation nationale, c'est assez mal fait. Mais on peut aussi parler... On a une autre responsable de team ici qui est Agathe et qui, elle, a commencé un projet de sensibilisation dans les collèges.
Alors, moi, pour l'instant, j'en suis là où t'en étais le semestre dernier, c'est-à-dire qu'on met en place, le programme. Et en fait, le souci, enfin, c'est pas vraiment un souci, mais un peu le point difficile qu'on a, c'est que les collégiens, ils sont pas encore totalement matures pour avoir la maturité du coup, des lycéens. Mais c'est plus non plus des enfants, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire juste des activités comme en primaire. Donc on doit essayer de trouver un entre-deux, c'est-à-dire de les intéresser assez pour qu'ils nous écoutent, mais en même temps pas faire juste un diapo et un exposé, où là, clairement, ils ressortiront avec pas grand-chose. Donc on essaye de faire des ateliers. On a des ateliers zéro déchet, des ateliers comment fabriquer... Enfin, on aimerait bien faire ça après, il faut voir si ça se mettra en place. Mais faire des ateliers, leur montrer des reportages, mais sans, comme tu disais Nathan, sans les faire culpabiliser, juste dire... Enfin, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu Notre Planète sur Netflix.
Oui.
Qui est un reportage où... en fait, j'aime bien l'idée parce qu'il ne culpabilise personne, mais d'un autre côté, il montre... Là, on a créé une réserve naturelle où il n'y a plus ce genre d'activité, il n'y a plus de surpêche, par exemple. Et on a vu qu'en 2 ans, la population a augmenté de 50%. Donc ça montre que ce n'est pas trop tard pour agir, mais qu'il faut quand même le faire rapidement, sinon on va perdre énormément dans la biodiversité. Et je trouve que c'est un moyen d'agir qui est plutôt pas mal et qu'on aimerait bien appliquer pour les collégiens... dans le semestre à venir.
C'est vrai que sensibiliser la population, surtout les plus jeunes, c'est super important. Et moi, ce qui m'a aussi énormément motivé à aller parler à des terminales, c'est que je me dis, l'année prochaine, pour la plupart, ils seront libres des choix de leurs parents. Ça veut dire, ils vont, certains, habiter en appartement tout seuls dans des studios, et ils vont avoir leur propre choix de consommation, que ce soit pour l'alimentation, les vêtements, même le transport. Et c'est là où je pense parler à ces gens-là est super motivant, parce que tu te dis peut-être que eux l'année prochaine ils vont changer leur mode de consommation et qu'on va commencer à avoir un déclic et un changement notamment chez les plus jeunes.
Et peut-être que quand certaines personnes changent de consommation, les personnes qui sont proches de ces personnes peuvent elles aussi avoir un impact sur leur mode de consommation.
Ouais, ça c'est sûr certainement vrai. J'ai une petite question pour Nathan, le président de Compiègne de Transition. Est-ce que toi tu as des petites actions au quotidien qui tu penses sont intéressante pour réduire ton empreinte environnementale?
Ouais, alors j'en ai pas mal, mais il y en a une que j'aime beaucoup en ce moment. Alors c'est un petit tip, c'est au niveau de ma douche. C'est que j'ai lu ça nulle part, bon, peut-être que je suis un génie du coup, parce que j'ai une idée assez farfelue, mais qui je trouve fonctionne bien. C'est séparer le lavage de mes cheveux et le lavage de mon corps. C'est-à-dire que, en gros, je me suis particulièrement penché sur l'idée de prendre des douches froides, mais j'ai du mal à laver mon corps vraiment entièrement à l'eau froide. Du coup, je trouve ça un peu brutal, surtout que je me lave généralement après le sport, le soir. Et donc, quand on est fatigué, peu flemme de se prendre un gros rinçage. Du coup, je prends une douche tiède, mais qui n'est pas une douche froide. Et donc, séparer le lavage du corps et des cheveux, ça me permet à la fois de réduire vraiment le temps de lavage, parce que je lave le corps, ça me prend 30 secondes, un coup de... 30 secondes, une minute, quoi, mais je mets un coup de savon et puis c'est bon, c'est réglé. Et pour le lavage de la tête, pour le coup, je fais ça vraiment à l'eau froide. Genre vraiment, je sais pas, à 10 degrés ou... Bon, pas au point que ça me fasse super mal, quoi, mais en tout cas, je sens bien que c'est froid. Et parce que j'ai remarqué que j'arrivais beaucoup plus à me laver la tête à l'eau froide. Et donc comme ça, je sépare les deux lavages et peut-être que si on fait un bilan de la température moyenne de lavage de mon corps, ça passe beaucoup mieux.
Mais ça, c'est super, Nathan. Non, c'est vrai que... Mais on peut rire, mais c'est ce genre, pour moi, de petites actions. Même des trucs bêtes, hein, mais aller faire ton marché... C'est pas bête, non. C'est même extrêmement bien. Si tout le monde achetait des produits locaux, des produits de saison, éviter de prendre la voiture, réduire sa consommation de vêtements, etc. C'est des choses, je sais, tu le fais. Et c'est juste des petits gestes au quotidien à prendre si tu veux aller dans le bon sens.
Alors... Surtout qu'à l'UTC, pour ceux qui ne savaient pas, il y a un compost... qui est accessible à tout le monde. Il suffit juste de signer une charte et ce compost est réutilisé. et donc valoriser. Et dans ces cas-là, on a moins de déchets et aller au compost.
Composter vos légumes. Alors, bien.
Je propose qu'on passe un peu à la suite de l'émission. Donc après cette discussion autour de Compiègne en transition et des petits conseils écologiques, je propose que l'on passe à un exemple concret et un petit débat autour de la Convention citoyenne pour le climat. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, si vous en avez entendu parler.
Est-ce que quelqu'un déjà peut nous définir un peu ce que c'est, Jules?
Clairement. C'est en fait 150 citoyens qui sont tirés au sort en France, afin d'avoir tout simplement un panel de citoyens assez large et assez varié, je pense. Et donc, c'est des réunions régulières qui sont organisées entre donc, ces groupes de travail afin d'arriver à des projets de loi. Et donc, elle est chargée de définir des mesures structurantes pour parvenir, dans un esprit de justice sociale, à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici à 2030 par rapport à 1990. Et donc, à travers ces réunions, les citoyens qui sont tirés au sort essaient d'arriver avec des idées, des solutions pour arriver à des projets de loi qui pourront après être proposés pour entrer en vigueur.
Donc, ça peut être dans différents domaines, le transport, l'agriculture, la consommation des citoyens, le logement ou le travail. Donc, c'est assez large et c'est pour ça qu'il y a 150 personnes qui sont tirées au sort, donc totalement au hasard.
Voilà, et c'est assez inédit comme expérience puisque c'est la première fois que ça arrive en France et même une des premières fois dans le monde, j'imagine. Et donc, les projets de loi qui seront trouvés pourront même être soumis à un référendum. C'est ce qu'avait dit Macron, en tout cas.
Ouais, moi, je pense que c'est super important, ces démarches-là, parce que souvent, dans la démarche de transition, dans la démarche de changer nos habitudes vis-à-vis du réchauffement climatique, on n'est pas assez constructif, c'est-à-dire qu'on est trop dans le blâme. On va dire, toi, tu ne fais pas cette chose bien, toi, tu ne fais pas cette chose bien. Et finalement, on se déresponsabilise en faisant ça, c'est-à-dire qu'en disant que quelqu'un d'autre fait quelque chose de mal, on s'empêche de nous de le faire. Et donc là, généralement, l'État, on prend souvent plein la tête. Et donc, l'aider à s'améliorer, je pense que c'est vraiment super. Et de cette manière, de la même manière, on peut voir ça à différentes échelles. Par exemple, Compiègne en transition, où plutôt que se taper les uns sur les autres à comment voir le changement de demain, on se dit, voilà, on met un peu nos différents de côté, on s'assemble, on essaie de créer un consensus et on se bouge ensemble.
C'est ça. Et donc, on verra les résultats de ce groupe de travail donc, en janvier, fin janvier 2020. Et on pourra donc voir si ça a apporté ses fruits ou pas.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette convention ?
Moi, je trouve, moi, personnellement, que c'est quelque chose de super. On se dirige vers quand même quelque chose de très, très, très démocratique, vu que c'est des citoyens tirés au sort qui vont proposer des lois pour le gouvernement et pour la France. Donc c'est juste, même d'un point de vue seulement démocratique, quelque chose de super. Et ce qui est aussi beau, c'est qu'ils proposent quelque chose de très intéressant et de très constructif concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il y a un professeur du TC qui a lu le rapport, je ne l'ai toujours pas fait, mais il ne serait tardé, qui a lu le rapport qui a été écrit par ses citoyens. Et il m'a dit que les actions qu'il proposait étaient, en plus d'être concrètes, justes pour l'ensemble de la population française, et assez efficace. Donc c'est d'autant plus de raisons pour dire que c'est une très bonne initiative du président Macron. Et même si ça ne peut être que de lui.
Est-ce que c'est assez diversifié? Parce que moi j'avais quand même lu que c'était pas... Enfin, qu'il y avait quand même beaucoup de gens de Sciences Po, je ne veux pas stigmatiser, et pas mal d'anciens militants gauchistes. Est-ce que c'est vrai?
Dans les citoyens tirés au sort?
Ouais.
Je ne sais pas où tu as vu ça, mais ça m'intéresse énormément de savoir quelles sont tes sources.
Je te dirai, je t'en parlerai après.
Parce que pour moi, c'est de savoir respecter les règles du tirage au sort. On a pris une certaine population entre 20 et 25 ans, entre 30 et 35 ans, okay. Etc., donc assez représentative. On a pris des gens qui habitent dans la campagne, en province, des gens qui habitent dans la région parisienne.
Ok, donc de toutes les professions aussi.
On a essayé de prendre un maximum de professions diversifiées, parce que c'est aussi intéressant d'avoir l'avis de l'agriculteur sur la modification de ses pratiques agricoles que l'avis de l'ingénieur. Et c'est aussi important d'éduquer la totalité de la population. Donc, c'est intéressant ce que tu me dis là, mais j'en avais aucune idée à vérifier.
Ok, pas de souci. Quelqu'un a quelque chose à ajouter autour de ça? Parce que sinon, on fait une petite pause musicale et on vous retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.
Et on écoute Wir sind Helden.
voiture un parapluie de l'essence. Alors je prends la voiture et je la prie d'être mon guide. Et je dis j'irai pas plus loin. Vers le vide, vers le vide.
Vers le vide, vers le vide, vers le vide, vers le vide.
Vers le vide, vers le vide. J'irai pas plus loin. Ici commence le vide, j'irai pas. Espérance marchant sur la route qui me refuse toutes nos avances. Elle dit pas la chance, elle me dit mets-toi à genoux. Je lui dis j'irai pas plus loin. Vers le vide, vers le vide.
Vers le vide, vers le vide. Vers le vide, vers le vide.
Vers le vide, vers le vide. J'irai pas plus loin. Ici commence le vide, j'irai pas. Vor dem Tor erklang ein Brausen und es sang ein Männerchor. Dann war Stille und dazwischen und davor setzte die Pause neue Flausen in mein Ohr und ich. J'irai pas plus loin, ici commence le vide, j'irai pas.
Et on se retrouve dans cette émission sur le thème de l'action contre le dérèglement climatique et de l'information. Alors nous parlions de la Convention citoyenne. Je crois qu'il y avait des gens qui voulaient revenir là-dessus.
Alors oui, on va revenir brièvement là-dessus parce qu'on a eu un très léger quiproquo. Donc, c'est moi qui me suis mal exprimée. En fait, je n'ai pas précisé que quand je parlais du manque de diversité, je parlais du manque de diversité au niveau du comité de gouvernance. Donc, Raphaël, tu veux réagir là-dessus?
Je vais revenir dessus. Donc, le comité...
Qu'est-ce que c'est déjà le comité de gouvernance?
Donc, c'est un comité de gouvernance qui est animé par le Conseil économique, social et environnemental. Donc, il associe le ministère de la Transition écologique et solidaire, ainsi que des personnalités qualifiées. Donc, parmi le comité, il y a 12 personnalités qui sont qualifiées, 3 experts du climat, 3 experts de la démocratie participative, 4 experts du champ économique et social, et 2 experts du ministère en matière de climat et de processus participatif.
Ça fait bien 12.
Donc, ça fait bien 12.
Le
exactement.
Compte est bon.
Le compte est bon.
Ok, donc voilà. Et du coup, c'est sur ça, Vincent, que je disais qu'il y avait un manque de diversité, entre guillemets.
Je pensais que
j'avais lu.
Je pensais que tu parlais des citoyens tirés au sort. Excuse-moi, génie.
Alors, cette émission touche à sa fin, mais avant de nous quitter, nous avons le temps pour une dernière discussion autour d'une question assez importante sur la communication autour du climat. Donc, selon vous, quelles sont les actions et quelle communication devrait-on mettre en place? Quelle stratégie pourrait-on mettre en place pour lutter contre le changement climatique?
Par exemple, celles dont on a déjà parlé au cours de l'émission, je pense, sont très intéressantes. Par exemple, le fait d'aller intervenir dans des lycées, des collèges, chez les enfants, oui, les enfants, les lycéens, tout ça. Mais aussi de proposer cette activité par cette façon.
Ou même, par exemple, dans la presse mainstream, on pourrait montrer les bons gestes au quotidien, comment faire par des exemples d'action au quotidien, tout simplement.
Moi, je pense que ça doit être fait d'une manière peut-être encore plus précise, parce que je pense que je connais des personnes qui en ont déjà marre de toute cette sensibilisation, c'est-à-dire qu'ils ont ça à longueur de journée, c'est devenu le sujet à la mode. Et du coup, dans toutes les revues, surtout pour les enfants, quoi, je pense à ma sœur qui vient d'entrer au collège, elle en bouffe à longueur de journée avec toutes ces revues parce que. Voilà. Et donc, à la fin, elle en a marre, quoi, parce qu'elle apprend rien de nouveau, et elle comprend des trucs. Mais il y a ce comportement, cet aspect culpabilisateur qui revient sans cesse. Et je pense qu'il faut réaborder la façon dont on communique, quoi.
Et ce qu'elle voit, c'est dans des revues où elle est abonnée, ou qu'elle voit à l'extérieur de l'école, ou c'est dans ses cours, elle voit ça ?
Non, c'est dans des revues. Même, je pense, peut-être que sa prof lui en parle un petit peu. Enfin, j'en sais rien, mais non, je pense que c'est surtout dans des revues.
Mais
je pense
qu'ils ont compris. Il me semble que c'est pas vraiment dans le programme.
Non, collège, non,
c'est le clairement pas.
Non, mais oui, je pense qu'en fait, je peux te citer, c'est peut-être Okapi, tu vois.
Oui, ok, pas très bien. Ouais.
Et pour toi, du coup, il y a trop de sensibilisation, du coup, bah, déjà.
Je dirais pas que trop de sensi, tu la sensi, mais voilà, il y a ce danger et cette barrière à pas franchir où quand t'en dis trop, finalement, tu saoules la personne.
Est-ce que quelque part, ce serait pas assez de paroles des actes?
Je n'ai pas bien compris ce que tu dis.
est-ce que pour toi, est-ce que justement on ne prioriserait pas trop la communication au détriment de justement l'action? Est-ce qu'il ne faudrait pas imposer des règlements, des choses comme ça sur l'écologie?
Si en partie, mais faut que les personnes qui aient les leviers en main puissent le faire. C'est-à-dire que on peut dire qu'encore une fois, Okapi, eux, ils ont bien agi. C'est-à-dire qu'ils ont senti le rôle et l'influence qu'ils pouvaient avoir sur les jeunes. Du coup, ils se sont dit, on va mettre de la sensi. Mais en attendant, peut-être qu'ils en font un peu trop. Mais encore une fois, je ne m'y connais pas tellement sur le sujet, quoi.
Mais après, je pense que dans le cas d'Okapi, c'est un peu... Genre, ils donnent les faits, ils vont dire, là, on a une perte de biodiversité, là, on a des décharges. Mais je pense que dans le cas de ta sœur, elle a du mal à s'identifier à ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui donner des solutions pour agir mieux. Ils ne vont pas lui dire, par exemple, si tu tries un peu mieux tes affaires, si tu achètes moins de plastique, peut-être qu'il y aura un petit peu moins ça et que ça s'applique à tout le monde. Enfin, moi, je le vois comme ça. Je pense que dans les revues, c'est beaucoup de... Il y a ça, c'est un peu de votre faute, mais bon, comment agir? On ne sait pas trop quoi.
Assez paradoxalement, moi je trouve, on parle énormément de ça en ce moment, il y a cet effet de mode, je pense qu'on peut dire ces mots-là. Mais voilà, c'est beaucoup de paroles et peu d'actes. En réalité, ce n'est pas si compliqué que ça. Si vous voulez réduire votre empreinte carbone, vous arrêtez de prendre la voiture, donc vous ne partez plus en vacances. Vous arrêtez d'acheter des vêtements, vous arrêtez d'aller sur Internet. Vous diminuez le chauffage l'hiver. Vous utilisez moins vos objets électroniques, ou vous achetez surtout moins d'objets électroniques. En France, vous mangez de saison, vous réduisez votre quantité de viande. Voilà, c'est plein d'actions comme ça. Mais est-ce que vraiment les citoyens sont prêts à faire tous ces efforts-là ?
Justement, là, c'est peut-être le rôle que la science a, c'est de montrer que on peut continuer. Je pense par exemple aux technologies du smart building, de la smart city, qui vend finalement un mode de vie qui est très proche du nôtre actuellement, mais avec des technologies qui permettent d'amortir ou de même compenser l'activité qu'on a. Et donc, je pense que c'est une grande source d'espoir pour certains. Après, ils ne sont peut-être pas forcément au courant vraiment des technologies qui vont être déployées pour le faire. Mais pour une certaine partie de la personne qui sont ni climato-sceptiques, ni contre les actions pour changer le climat, eh bien, je pense que ça les rassure aussi de se dire que voilà, franchement, la science va jouer un gros rôle dans tout ça. Et du coup, ça pourrait les aider aussi, quoi.
Oui, il y a aussi ce mirage, la science va nous sauver. Moi, personnellement, et même en tant que futur ingénieur, je pense que la science, même sur la science, ne nous sauvera pas. Faire de l'énergie, on sait faire de l'énergie aujourd'hui, on sait l'utiliser, et on voit que ça pose problème. La seule solution, ça va être de consommer moins, d'utiliser moins d'énergie et de vivre en sobriété énergétique. Toutes ces grandes illusions de... Ouais, on va faire des voitures électriques de partout, ça va être magnifique. On va avoir la science qui va nous sauver. On va faire du coup des villes intelligentes, des smart cities pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Voilà, pour moi, c'est un mirage. Tout ça, ça va juste contribuer à de plus en plus de réchauffement.
Moi, j'ai une dernière question à vous poser, parce que là, on parle beaucoup d'éduquer la population, mais on parle principalement des jeunes. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on a en fait toute une population à éduquer et pas seulement les jeunes, parce que je veux dire, ça creuse un peu un fossé, parce que moi je vois avec mes parents, ils sont quand même beaucoup moins sensibles que moi je ne le suis, parce que j'ai pu évoluer dans un cadre où on m'a enseigné un peu tout ça. Mais donc comment vous faites pour éduquer la totalité de la population?
Ça c'est pas évident, ouais, parce que pour repartir sur les difficultés de communication, Je pense qu'il faut vraiment savoir. On est excellent pour faire de la communication pour des boissons, pour des trucs qui ne sont finalement pas DD. Mais DD, c'est développement durable. Mais je pense qu'on peut aussi être excellent pour sensibiliser les publics. Mais il faut vraiment comprendre que chaque tranche d'âge de public nécessite une attention particulière. C'est-à-dire que, je repense à ma sœur, on ne peut pas lui dire les choses telles qu'elles sont actuellement. Parce que voilà, elle est trop jeune pour entendre ça. Tu ne vas pas la brusquer et lui dire, bah voilà, ta vie, c'était de la merde. Non, on ne peut pas lui dire ça. Et à l'inverse... entre guillemets, les vieux, on ne peut pas leur dire ça non plus, quoi. Du coup, il faut vraiment développer des stratégies, comprendre le contexte, comment ils ont évolué, leurs habitudes, etc. Et ça, ça nécessite vraiment une étude sur le public pour savoir après comment s'adresser à eux de la meilleure des manières, quoi.
Et sinon, je voulais revenir sur un sujet qu'on évoque parfois en cours, qui est la dictature verte, qui consiste en fait à imposer à créer des lois et à imposer en fait aux citoyens de suivre une certaine démarche écologique. Est-ce que ça marcherait pas? Parce que quand on entend les scientifiques, on a l'impression qu'on n'a pas le temps, en fait, que ça vient trop vite, qu'il y a une urgence. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, est-ce qu'on pourrait pas, du coup, imposer cette dictature? Et puis, tant pis, les gens, ils comprendront assez rapidement que oui, en effet, il y avait urgence.
Et du coup,
que là,
on
ce qu'on a fait, c'était
bien.
Nécessaire, on a fait ça pour leur bien. Est-ce que ce serait pas une solution? Personnellement, je suis partagée, parce que d'un côté, OK, il y a urgence, mais on est dans une démocratie, on peut pas imposer comme ça des lois. Mais est-ce que si c'est dans ton intérêt dans l'intérêt général, est-ce qu'au final c'est pas une bonne chose? Je suis assez partagée, je sais pas ce que vous en pensez.
Moi, pour moi, c'est plus avec des politiques incitatives que dissuasives que on va avoir des vrais impacts au quotidien ou.
Oui, mais moi, je suis désolée, mais pour le coup, chaque grand changement de l'histoire, il a été fait par des gens qui ont fait des sortes de révolutions. Enfin, je veux dire, c'est pas en étant modéré qu'on change les choses. Enfin, pour le coup, c'est avéré.
Après,
inciter, est-ce que tu penses que c'est suffisant?
En obligeant, les gens vont juste essayer de contourner le problème. Limite, pour une certaine durée, ils vont peut-être rentrer dans les ficelles, mais au bout d'un moment, ils vont pas avoir l'état d'esprit qu'il faut derrière. Et qui va faire avancer les choses, en fait, pour moi.
Mais c'est dans un cadre où tout le monde suit cette démarche-là. Si tout le monde... Après, je suis d'accord que c'est compliqué dans le cadre actuel où il y a différents pays et clairement, on n'est pas tous sur la même longueur d'onde. Mais si, par exemple, tu prends la France, juste l'échelle de la France, et tu dis tout le monde suit cette démarche et on voit que ça marche, est-ce que les gens, ils ne commenceraient pas à suivre, justement? Plutôt de faire dans l'autre sens, de voir que les gens suivent, du coup, on impose des trucs au fur et à mesure. Pourquoi pas imposer d'un coup? Et au fur et à mesure, les gens comprendraient pourquoi on leur impose ça.
Je pense qu'il faut peut-être un mélange des deux.
Oui, mais c'est ça, je suis d'accord avec toi là-dessus.
Puis ces mesures-là, ça va être des mesures privatives. C'est-à-dire,
Oui, ça sera privatif.
Donc, c'est à la population. Oui, du coup, c'est un système autoritaire.
On a bien vu comment est-ce que ça a donné pour le cas de la taxe sur le.
La taxe carbone, on peut voir les conséquences.
Après,
que ça.
Après, elle a été mal introduite.
Vous parlez de l'éco-taxe?
De la taxe carbone.
Ok.
Bah, les gilets jaunes sont.
Oui, bien sûr.
L'augmentation des prix du pétrole. Non, mais t'as raison, Agathe, mais c'est. Si on se fait l'avocat du diable, on se dit, mais ok, on fait quoi? On impose aux gens, on leur dit, ok, maintenant vous devez faire ça, vous n'avez plus le choix.
Oui, c'est sinon, chose qui paraît les conséquences. Comme ça, c'est vrai que
mais vu qu'on est dans une démocratie.
C'est un sujet qui fait débat.
Sujet très tendu, j'avoue.
Jules, tu peux ajouter quelque chose?
Oui, très vite. En plus, Agathe, tu disais qu'on pouvait imposer ça en France, par exemple, et puis attendre que ça ait des effets pour que le reste du monde s'y mette. Je pense que, honnêtement, si on fait ça, les gens vont juste partir.
Il faut juste avoir des grèves.
C'était pas exactement ça ce que je voulais dire. Je voulais dire justement si on prend juste l'échelle de la France et que tout le monde en France se suit, mais on oublie totalement le reste du monde. C'était juste à l'échelle de la France. Mais
désolé.
C'est vrai, je suis d'accord avec toi qu'au niveau international, clairement, c'est impossible. C'est comme si on fait trop d'impôts, les riches y partent, et puis voilà, c'est toujours la même histoire. On peut quitter la France.
C'est ça, merci.
Ouais. Alors, il est déjà l'heure de nous quitter. Raphaël, peut-être tu voulais dire quelque chose, le mot de la fin.
Je pense que c'est plus avec des mouvements comme la Convention citoyenne pour le climat qu'on fera avancer les choses avec une échelle plus importante, je pense, qu'avec des politiques dissuasives où les gens sont obligés d'agir. Donc voilà.
Très bien. Alors voilà, cette émission est terminée. Merci à tous, en particulier à Nathan Mott. Notre invité d'aujourd'hui.
Nathan Mottier,
pardon, excuse-moi.
Et merci Nathan Mottier.
Excuse-moi, j'ai mal noté. Je voulais juste vous rappeler que vous pouvez écouter et réécouter ce podcast sur graphite.net. Pour ceux qui sont intéressés, les musiques que nous avons écoutées aujourd'hui, dans l'ordre, c'était le concerto pour piano numéro 21 de Mozart, Chaque seconde de Kyo, le vide de Wir sind Helden. Et on se quitte maintenant avec quand on a que l'amour de Jacques Brel.
Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, que nous aurons dans nos mains le monde entier.